RTVFM, l'interview du jour. Ce mardi 12 janvier avait lieu à l'hôtel de communauté un point presse pour présenter le bilan de l'action de Jacqueline Bouillac après 100 jours à la présidence de la COV. Elle était aussi accompagnée pour la présentation du bilan de Claire Tremblay, directrice de cabinet et de la communication.
Donc là, on a voulu faire un petit point de presse avec la présidente sur un petit peu un bilan de on a appelé ça les 100 jours de Jacqueline Bouillac. Mais disons qu'on a voulu faire un petit point sur ces 3 mois, on va dire, 4 mois de présidence, avec ce qui fait la particularité, la personnalité de Madame Bouillac, hein, puisque c'est la première fois qu'on a une femme présidente à la COV, déjà. C'est la première fois dans l'histoire de la COV qu'on a une femme qui n'est pas mère. Hein. C'est un peu selon quatre angles qui nous paraissaient ceux qui symbolisent le mieux l'action de la présidente, qui est une présidente d'action, le côté consensus aussi le côté terrain, proximité, que ce soit en interne à la COV ou aussi à l'extérieur, hein. Et puis le côté présidente d'influence aussi, avec tout un tas d'actions ou d'interventions qui sont faites au niveau national ou sur des médias nationaux pour intervenir en tant que présidente d'une intercommunalité.
Pour commencer, Jacqueline Bouillac nous a parlé de la charte de gouvernance qui a été revue au début de cette nouvelle mandature.
Vous avez la charte de gouvernance. J'ai écouté déjà tout ce que les anciens ont regretté qu'il ne soit pas fait. Les anciens élus, il y en a la moitié qui sont anciens et la moitié qui sont nouveaux. Donc pour ne pas repartir sur des bases qui n'avaient pas donné satisfaction à tout le monde, j'ai dit qu'il faut qu'on revoie cette charte de gouvernance pour voir comment on peut l'améliorer et pour apporter des réponses qui apparemment n'étaient pas données. Soi-disant, enfin, d'après les commentaires, tout venait d'en haut, les vice-présidents n'avaient pas de décision eux-mêmes, bref, donc il y avait tout ce genre de commentaires. En fait, on est obligé d'avoir des administratifs qui, eux, maîtrise des sujets que nous, élus, on ne maîtrise pas, il faut aussi le reconnaître, on a besoin de leur appui. On a travaillé donc avec les administratifs pour faire cette charte de gouvernance. Et cette charte de gouvernance, elle apporte quelques modifications, c'est-à-dire qu'il y a le bureau des vice-présidents que nous avons déjà présenté hier soir, enfin que nous avons déjà fait travailler plusieurs fois, mais hier soir en particulier, pour que chaque vice-président, avec les fonctions qui leur ont été données, puisse rendre compte aux autres vice-présidents de ce qui a été fait, des soucis qu'ils ont peut-être rencontrés, des solutions que peut-être notre va pouvoir apporter. On s'apercevait aussi que quand un vice-président était interrogé sur les ordures ménagères alors que lui s'occupe du tourisme, il était au courant de rien. Et donc ça, c'est un peu dommage quand on rencontre quelqu'un qui ne soit pas au courant de ce qui se passe dans la COV.
Oui, juste pour compléter, justement, par rapport au fait d'être toujours à l'écoute, donc dans ce qui est la notion de présidente de consensus aussi, là, on a un peu regroupé, justement, tout ce qui était les actions qui avaient été faites. Donc, il y a eu la rencontre avec les nouveaux maires des communes, donc... On s'est rendu, la présidente s'est rendue, donc sur. Alors déjà, on a fait 13 communes, puis après, le confinement et la Covid nous a contraints à arrêter, mais pour aller rencontrer donc les maires dans leurs communes, avec leurs conseils municipaux, pour voir ce qu'ils attendaient de la COV, justement, quelles étaient aussi. Par rapport au précédent mandat, les choses qu'ils souhaitaient voir mettre en place, aussi au niveau de la gouvernance, c'est un peu ce qui a donné lieu aussi à la charte après. Donc là, il y a déjà 13 communes qui ont été rencontrées. Donc ça a donné lieu à la charte de gouvernance aussi, enfin pas que ces visites dans les communes, mais donc qui a été adoptée le 14 septembre. Au niveau des intercommunalités, des chartes de gouvernance, il n'y en a pas beaucoup en France. Voilà, il y a eu depuis, sans compter donc le conseil de communauté d'élection, hein, de la présidente ou des vice-présidents, donc il y a eu 3 conseils de communauté. Sur ces 3 conseils de communauté, il y a eu 73 délibérations qui ont été votées à l'unanimité et 9 à la majorité. 3 réunions du conseil des maires, hein, 3 réunions des vice-présidents, et puis il y a eu aussi une rencontre, même plusieurs rencontres avec le président de la communauté de communes Ventoux Sud, hein, sur les synergies à renforcer entre les deux intercommunalités, puisqu'ils sont déjà dans le SCOT avec nous, dans le PLH.
J'ajoute qu'en tant que pour la région,
les subventions qu'on aura, c'est quand on va pouvoir présenter des projets de territoire. Donc on ne va pas faire par exemple des pistes cyclables qui s'arrêtent juste à la sortie, qu'après il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui soit coordonné avec Bantou Sud, avec les Sorgues du Comtat. On n'est pas tout seul, la COV.
Donc après il y avait un autre axe qui était l'action. Hein. Là il y a plusieurs actions qui concernent plusieurs domaines, mais dont pas mal sont quand même liées au développement économique. Donc il y a eu l'engagement dans le fonds Covid Résistance et dans le plan de relance économique hein, qui a été largement impulsé par la présidente, avec là aussi l'ensemble des élus, notamment les élus au développement économique et touristique. Il y a eu donc des rencontres là sur tout le premier trimestre hein, avec les présidents d'associations économiques ou consulaires. Hein, donc il y a eu des rencontres avec le président du RIL, avec le président et des membres du bureau de Carpent Sud. Il y a eu l'association de la gare numérique avec qui on s'est vu aussi plusieurs fois. On a travaillé avec eux sur la future gare numérique, dont la dernière fois la semaine dernière. Hein. Voilà, la fédération BTP 84 aussi, où on est allé, là c'était avec le premier vice-président, voilà, l'invitation du président de la fédération BTP pour voir comment dans les marchés publics et comment par rapport à notre programme d'investissement, on pouvait leur donner une visibilité pour les artisans du Vaucluse. Donc la présidente a suivi et suit aussi de près le projet d'extension de ETEX, l'ancien Signat, hein, donc en lien avec le maire de Carpentras et la région Sud. Il y a eu aussi au mois de septembre une journée de visite et des travaux et rencontres avec les maires des communes et les acteurs concernés, donc du sommet du Mont Ventoux avec le conseil départemental. Ensuite, il y a eu des rencontres aussi avec les partenaires financiers, là aussi, autour de l'aménagement des stations du Mont Ventoux, puisqu'on a pris la compétence sur l'aménagement des stations. Donc avec le conseil départemental, la région Sud, la présidente a conduit plusieurs réunions pour faire le point sur ces projets-là.
Suite aux récentes chutes de neige au Mont Ventoux, la région, avec la COV, ont fait une demande pour que la station puisse ouvrir ses portes malgré les conditions sanitaires.
Le président Muselier a insisté hier soir pour que je dise qu'on demande, s'il y a de la neige, que tout fonctionne pas.
Parce que même en termes d'économie, du coup, c'est...
Et en termes d'économie, ça va être dramatique. Hein. Bon, nous, là, c'est des petites communes, mais dans les Alpes et de partout, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir.
Sinon, nous, on met en place chaque année la COV à nouveau pour les vacances de février, la navette du Mont Ventoux.
Oui, hein, pour éviter justement toutes ces stations.
La présidente a souhaité aussi présider le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Ce qui n'était pas le... Enfin, auparavant, ce n'était pas le cas. Hein, ce n'était pas le président qui présidait cette institution. Donc là, il a été installé avant les vacances de Noël, donc pour la mandature 2020-2026. Après, il y avait tout ce qui était aussi lié à la proximité, au terrain, hein, qui est quand même aussi une particularité un peu de cette présidence. Donc avec à la fois des visites donc sur le terrain économique, hein, en dehors de ce dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Notamment, il y a eu des visites d'entreprises dans des tout petites communes comme à Modène, hein, où j'allais visiter l'entreprise Grasses Aménagement Menuiserie. Il y a eu aussi la compagnie Archibald Caramantran au marché Gare. Hein.
Qui ont fait mes Noël insolites.
C'est ceux qui font les grandes marionnettes. Là. Alors, ils ne font pas tous les Noël insolites, mais ceux qui font les grandes grenouilles, ils font des prestations dans le monde entier. Ils ont, je ne sais plus combien de temps, 35-40 salariés, je crois.
Sur le carnaval aussi, ils font toute l'année plein de choses. Oui.
Hein. Et puis après, il y a eu une visite aussi de parc d'activité du Piol, hein, avec... le maire de Mazan. Il y a eu aussi donc une visite sur notre kiosque d'info itinérant, là, notre coccinelle, les rendez-vous de la COV, donc qui a repris du service. Là aussi, avec la Covid, on a dû arrêter dans les marchés, puis reprendre, arrêter. Là, on a repris il n'y a pas longtemps. Donc là, c'était sur le marché de Malocène. Hein. Et puis, dernièrement, à la crèche intercommunale de Caron. Hein. Voilà, donc ça c'est le côté terrain proximité, plutôt avec les usagers, puis aussi en interne, hein, alors avec les services de la COV.
J'ai rencontré tous les services, j'allais écouter toutes leurs doléances. J'ai pris en considération la demande qu'ils faisaient, ils avaient vraiment besoin d'avoir une complémentaire actuelle, ce qu'ils n'avaient pas et ce qu'on va prendre en charge à partir de maintenant, là,
Ensuite, dans les services de c'est la voirie, j'ai un endroit qui n'était pas fermé. C'est vrai que quand il fait froid, et voilà. Donc je me suis dit, c'est pas compliqué de faire une véranda ou quelque chose pour les mettre. Donc j'ai fait le tour. Les demandes sont raisonnables. En général, ils ont l'air plutôt contents.
Oui, puis c'est aussi d'aller voir dans leur service vraiment la mécanique, qu'ils puissent expliquer leur travail. Voilà, donc ça c'était un peu l'axe terrain proximité. Puis après, il y avait ce qui était plutôt au-delà de notre territoire intercommunal, hein, l'aspect aussi influenceur, influenceuse. Donc il y a eu la sollicitation qui a été faite par courrier des parlementaires et du préfet sur les modalités d'application du calcul de la CFE là, qui doit remonter au niveau national. Hein. Voilà, mais là pour le moment on n'a pas de retour encore. Hein.
Alors j'ai expliqué en conseil communautaire, quand j'ai été élue c'était le 15 juillet et il fallait que tout soit réglé avant le 31 juillet pour cette CFE. Donc comme avant ça n'avait pas été préparé, hein, moi j'ai pris le truc en route sans le mettre non plus. Par contre, on avait fait une avance de trésorerie pour
le fonds Covid résistance.
Le fonds Covid de 300 000 euros, c'est ça ? De 300 000 euros, ça, on l'avait fait voter au 31 juillet. Et dans les modalités d'application de la CFE, au 31 juillet, ça ne concernait que les grosses entreprises. Mais ça ne concernait
que une partie des entreprises.
Ça ne mettait pas en application la CFE, cette CFE pour les soi-disant commerce dit non essentiel. Alors qu'un petit un coiffeur, l'onglerie, une esthéticienne, c'est pas forcément essentiel, mais c'est quand même important. Donc ils ont aussi peut-être les problèmes de trésorerie comme tout le monde, plus que peut-être. Donc si là, nous, on a élargi cette demande au préfet, on a demandé au préfet de pouvoir travailler.
Le député, oui, le sénateur.
Le député, sénateur, de pouvoir travailler sur l'ensemble des commerces pour la CFE.
Voilà, là on attend, on regardait le projet de loi de finances là, pour 2021, mais
ça y est pas pour
du gouvernement, mais a priori il n'y a pas pour le moment de nouvelles fenêtres d'exonération de la CFE.
Aussi, hein,
donc voilà, après ça peut passer autrement, mais du coup, voilà, mais c'est cette intervention qu'il y a eu. Elle a contribué aussi à une enquête nationale de l'Assemblée des communautés de France, la DCF, sur les profils des nouveaux présidents des EPCI suite au renouvellement des exécutifs au niveau national, où cette année, dans les communes comme dans les intercos, il y a eu beaucoup de... C'est une nouvelle, on va dire, génération d'élus qui est arrivée. Et donc, il y a une enquête nationale qui est menée. Jeudi aussi, alors il y a...
Jeudi 14.
Voilà. À 11h, s'ouvrent les assises européennes de la transition énergétique, enfin qui ont commencé lundi, hein, qui sont toute la semaine. Du coup, il y a beaucoup d'ateliers d'intervention en visio, parce que déjà c'est à l'échelle européenne, hein, donc voilà. Et jeudi matin, il y a un atelier, enfin une conférence qui s'appelle Les élus 2021, les élus s'engagent, et où il y a 3-4 élus qui vont témoigner de l'action de leur collectivité. On va intervenir, enfin la présidente va intervenir sur notre plan climat, air, énergie territorial. Et ensuite, là aussi, ce dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi les interventions auprès du président de la région Sud en tant que conseillère régionale pour le soutien aux projets, aux dossiers communaux qui sont soumis à la région, hein,
notamment pour les
subventions, le CRET, le FRAT, etc.
Madame Jacqueline Bouillac a aussi présenté les prochaines priorités et perspectives de la COV pour l'année à venir.
Déjà mettre en place ce plan climat.
Ah oui, c'est un des axes importants. Hein, c'est un peu les axes qui avaient été développés dans la présentation de la candidature aussi, hein, le développement économique, la transition écologique et la proximité.
Puis on va travailler pas mal sur le tourisme, parce que là-dessus se greffe avec le parc du Ventoux.
Aussi, oui.
Parce qu'on aura un apport de touristes, ne serait-ce avec le label parc, qui viendra en plus du label de notre territoire régional. Ça, c'est quelque chose qui, j'espère, fera venir un peu plus de touristes dans notre région.
Voilà, et au niveau touristique, il y aura un séminaire là au printemps avec les élus. Là aussi, pour redéfinir, donc ça c'est à court terme, hein, un petit peu avec les nouveaux élus et vu le nouveau contexte économique et sanitaire, quel est quel tourisme pour le territoire et quel objectif on donnait à l'Office de tourisme intercommunal, à la SPL, puisqu'on doit renouveler la convention avec la SPL. Voilà, en juillet, on l'a prolongé jusqu'à juillet. Voilà, là aussi, donc ça c'est à court terme la réflexion sur le positionnement touristique et les conventions d'objectifs avec Ventoux Provence.
Pendant le séminaire, on a mis un fonds, plan de relance économique, mais on apporte, nous, COV, 800 000 euros pendant la durée du mandat sur le patrimoine.
Voilà.
Pour que les petites communes qui ne peuvent pas, je sais pas moi, remettre en valeur un bassin ou une montée d'escalier à quelque part, enfin quelque chose qui revient forcément cher, nous, la COV peut apporter son aide. Donc, c'est Dominique Blanchet qui gère ça, qui est maire de Venasque et qui est vice-présidente à la COV.
Et ça, c'est vrai que aussi, le fonds de concours Petit Patrimoine, donc c'est pour de l'investissement de restauration.
Ça fera travailler des artisans du coin aussi.
Voilà, c'est aussi créer de la commande publique auprès des artisans, des entreprises, etc. Donc, là
on ne donne pas l'argent à la commune pour faire, on ne le rembourse que si elle le fait. On en donne une partie que si c'est fait. Parce qu'il y a des choses qui avaient été données jusqu'à maintenant, mais qui n'ont pas été utilisées et qui ont été mises dans le budget sur une autre ligne, et ce qui fait que l'argent qui a été donné pour faire...
Oui, et après, voilà, il est fondu des fois dans le budget.
C'est pas un contrôle, mais si on apporte cet argent pour faire quelque chose de spécial, et on aime bien que cet argent soit mis à l'endroit où il faut.
Voilà, puis donc, ça, oui. Puis
donc,
ça
quand, quand ils auront prévu de faire les travaux, que les travaux seront validés par la COV, là, ils auront le...
Fonds de concours, patrimoine.
Ça s'appelle fonds de concours petit patrimoine.
Voilà. Et ça permet aussi de valoriser
le... qu'ils peuvent obtenir. On va les aider à obtenir une subvention, même européenne, selon ce que c'est, ou régionale ou départementale. Et la COV vient en complément par rapport à ce qui reste, le delta qui reste à charge de la commune.
Et ça aussi, c'est en lien avec l'aspect touristique aussi, parce que c'est-à-dire que ça permet aussi de valoriser le patrimoine, que quand les gens se baladent dans un village, les fontaines soient entretenues. Ça peut être aussi utilisé pour de la médiation sur site, c'est-à-dire des lutrins, des panneaux, enfin voilà, ce fonds de petit patrimoine, et là aussi, c'est un volet économique et touristique.
Nous avons aussi souhaité, lors de ce point presse, en savoir plus sur la mise en place du nouveau système d'accès automatisé des déchetteries de la COV et l'obligation de s'inscrire pour y accéder.
Donc ça, c'est un projet qui avait été voté par l'ancienne mandature, qui a été repoussé dans sa mise en œuvre parce qu'il y a pour des questions techniques ou de projets, etc. Donc là, les inscriptions ont démarré donc le 4 janvier pour les habitants, donc avec des inscriptions ou en ligne ou papier, hein, puisqu'on a des permanences dans les communes. Il y a le kiosque itinérant, la petite coccinelle qui peut récupérer les inscriptions. Les gens peuvent amener les dossiers papier dans les déchetteries, dans toutes leurs communes, à l'hôtel de communauté, etc. Et il y a l'inscription en ligne. Aujourd'hui, l'inscription en ligne, donc depuis le 4 janvier, on a 2000 dossiers en cours. Donc, et c'est exponentiel. Tous les jours, on a des gens qui s'inscrivent. Par contre, la mise en place opérationnelle de dispositif sera au printemps. Donc là, il y a la phase d'inscription, mais pour le coup, les barrières restent ouvertes. On a la déchetterie de Carpentras qui rentre en service le 1er février. Et donc, en fait, c'est un plan d'ensemble, on va dire, d'amélioration des déchetteries, à la fois la nouvelle déchetterie de Carpentras pour le public, la déchetterie des professionnels qui va jouxter la déchetterie de Carpentras, l'harmonisation des horaires sur les 5 déchetteries, le contrôle d'accès... à l'entrée, donc voilà, ça a démarré les inscriptions pour les habitants là le 4 janvier. Et 1er février, l'ouverture de la déchetterie de Carpentras avec l'uniformisation des horaires sur toutes les déchetteries. Et printemps, la mise en place opérationnelle du contrôle d'accès sur l'ensemble des déchetteries. Avec donc horaires, l'interdiction des déchetteries pour les professionnels à partir de...
Avec des horaires qui seront quand même plus élargis.
Uniformisés, voilà.
Plus élargis aux saisons, quand les journées sont plus longues.
Et les 18 passages, donc là, c'est le nombre de passages qui a été fixé pour cette première année.
Un foyer, c'est pas pour...
Voilà.
Parce que s'ils ont 3 véhicules, ils n'ont pas 18 fois 3. Quoi.
Voilà.
Parce qu'ils peuvent inscrire 3 véhicules s'ils veulent.
Et après, ça permettra déjà sur cette année test, comme le contrôle d'accès sera mis en place et qu'on saura exactement qui va dans quelle déchetterie, ça permettra d'avoir une meilleure vision des habitudes des usagers, aussi savoir quelles sont les déchetteries les plus fréquentées. Les habitants de telle commune, ils vont plutôt à telle déchetterie ou à telle autre. Et après, ce sera voilà, une année qui nous permettra d'avoir des données plus précises. Ça se met en place avec le soutien des communes qui vraiment joue le relais.
Les bennes, les fameuses bennes de déchets vertes, voilà, effectivement. Est-ce qu'ils vont être maintenus? Est-ce qu'ils vont être supprimés sur le long terme?
Pour l'instant, c'est maintenu, mais on va essayer d'apporter une réponse avec le broyage à domicile un peu plus régulier, un peu plus nombreux, plus de gens,
oui.
Peut-être. Mmh. Quand on aura ça, peut-être qu'on enlèvera les bennes à déchets verts, parce qu'on a peur que ces bennes à déchets verts soient remplies d'autres choses.
Oui. Mais l'idée, c'est de les enlever, parce que si on laisse des caisses à végétaux, déjà qu'aujourd'hui, elles sont remplies par les professionnels. Ouais. Les paysagistes qui arrivent et qui vident dedans, donc les habitants, ils peuvent même pas mettre leurs déchets dedans. Voilà, donc là, c'est sûr que ça... Et puis la composterie, par contre, reste ouverte et il n'y a pas de nombre de passages limité. Mmh. Donc c'est une déchetterie spéciale pour les déchets verts, quand même.
Un risque de dépôt sauvage, déjà en limitant...
On l'a évoqué.
Toutes les collectivités où ça a été mis en place, parce qu'on est quand même la seule communauté... entre Vaison, Ventoux, les Socs du comté Avignon, où on n'a aucun contrôle d'accès déchetterie. Tout le monde est... Ah oui, on est les seuls où c'est open bar. Et quand vous passez de la Cove à Monteux ou à Vaison, Ventoux, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de déchets sauvages que chez nous. RTVFM.